Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour. Depuis près de 4 ans, la France est prise dans l'engrenage de la récession économique, largement accentuée par le phénomène de globalisation. Mais ce dernier ne saurait être le seul responsable. La France est en effet paralysée par ses propres blocages internes, comme les orientations économiques conservatrices auxquelles s'ajoute au sein des entreprises un mode d'organisation parfois rigide, et cela ne date pas d'hier. C'est en tout cas ce que pense le sociologue Michel Crozier, dont l'essentiel du travail s'est attaché à décrypter les réalités du monde de l'entreprise en France, idée qu'il a développée au travers d'ouvrages célèbres comme « La société bloquée » publié en 1970 au Seuil, puis réédité en 1995, une analyse empirique marquée par le dynamisme économique américain, pays dans lequel il a enseigné à Stanford, Harvard, mais aussi à l'école des sciences sociales de l'Université de Californie. Mais qui dit blocage dit solution, et Michel Crozier n'en manque pas, allant jusqu'à nourrir l'espoir de voir son pays se libérer de ses blocages dans « Quand la France s'ouvrira », publié cette fois-ci chez Fayard en 1999. Michel Crozier, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au micro de Canal Académie, la radio de l'Académie des sciences morales et politiques. Certes, la situation économique de la France est préoccupante. Pourtant, notre pays ne manque pas de ressources, à commencer par la qualité de ses ingénieurs, ainsi que son goût très prononcé pour la technologie de pointe. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je crois que la France est effectivement un pays très riche, très dynamique, pleine de talents. Elle réussit chaque fois qu'il y a quelque chose d'assez clair sur lequel on peut se concentrer et qui correspond à une formation assez traditionnelle, mais qui est tout à fait adéquate pour le monde moderne. Là où elle ne réussit pas, c'est dans l'organisation d'ensemble et surtout l'organisation administrative. L'État joue un rôle particulièrement important pour empêcher qu'on tire parti de tout ce qu'on est capable de faire.
Alors, on reviendra donc à l'importance de l'État, mais revenons sur la technologie de pointe. Quels sont les exemples que vous pourriez donner sur les technologies de pointe en France ?
De réussite, bien sûr, il y en a beaucoup, aussi bien dans le sens du nucléaire, où on a pris une technologie déjà développée aux États-Unis, on l'a transformée, on a réussi. TGV, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui paraît de la technologie moyenne, mais qui a été mené à bien très de façon remarquable. On a toutes sortes d'inventions, continue à avoir des inventions, la carte à puce, n'est-ce pas, toutes sortes de choses. Je n'ai pas en mémoire, je ne suis pas un spécialiste de la technologie de pointe, mais on a beaucoup d'inventions encore. Nous avons beaucoup de mal à développer toute la chaîne qui va de l'invention jusqu'à la mise en œuvre. Nous sommes plus inventeurs qu'innovateurs. Et pourquoi nous ne sommes pas innovateurs ? Mais c'est parce que tout le système social interne d'un ensemble humain français résiste au changement et que nous n'avons pas trouvé les moyens de faire collaborer les gens à ce changement. Quand on réussit à le faire, ça marche très bien.
Alors justement, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, vous dites que le potentiel de création existe, mais que cependant, vous l'avez souligné tout à l'heure, il est étouffé par le rôle prédominant de l'État.
Oui.
Et cette spécificité est française. Elle n'a fait que s'accroître au début du XXe siècle, puisque notre pays est attaché à la formation, par exemple, de hauts fonctionnaires via l'École nationale d'administration, ENA, et aussi Polytechnique. Or, quand on regarde qui dirige actuellement les grandes entreprises françaises, on ne peut que s'étonner du nombre important de hauts fonctionnaires. Et du coup, est-ce que la finalité de ces formations ne dévie-t-elle pas de sa fonction première, qui est au départ la gestion des impératifs régaliens ?
Oui, bien sûr. Les étudiants sont formés pour être fonctionnaires et ils deviennent patrons. C'est pas une bonne façon de former les patrons, bien que tout de même ils se débrouillent, et en même temps, c'est pas une bonne façon de former des fonctionnaires qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter la fonction publique maintenant. Donc c'est un petit peu absurde. Je crois que ce qui est le plus important, c'est ce que j'ai développé dans mon livre, ce qui est le plus important, c'est tout de même le modèle intellectuel qui est développé à travers la formation et qui persiste chez la majorité des dirigeants français, qu'ils soient administrateurs ou chef d'entreprise. C'est ça qui est le plus important. Nous avons une vision encore selon laquelle c'est l'esprit qui dirige et on peut, avec la règle à calcul, le raisonnement et la bonne formation antérieure, réussir à trouver les solutions. Et ensuite, les solutions sont appliquées. Les Français dirigeants ne sont pas préparés à écouter la réalité et écouter la résistance de la réalité. C'est ça qui manque le plus, qui fait qu'on fait des réformes absolument, on prépare des réformes extraordinaires et qui ne réussissent pas parce qu'on n'a pas écouté la réalité. Si vous voulez, le maximum de ce phénomène, ça a été la réforme Juppé, qui était une réforme extraordinaire, qui était préparée dans le détail et très bien préparée. Et l'Assemblée nationale a ovationné M. Juppé, les socialistes acceptant l'idée même, tout simplement parce que c'était le fin du fin de la préparation d'une réforme. Or, la réforme s'est heurtée à une réaction absolument extraordinaire que personne n'avait vraiment prévue, tout simplement parce que les problèmes des Français n'avaient pas été perçus de façon, comment dire, affective. On n'avait pas compris les aspects affectifs, les aspects relationnels et tout le système sous-jacent. Une société, c'est pas quelque chose que on manie comme on veut. J'ai écrit autrefois un livre, on ne change pas la société par décret. Bon, c'est vrai, c'est encore vrai.
Alors justement, revenons quand même au poids des hauts fonctionnaires. Nous avons l'impression, vu de l'extérieur, qu'un énarque, comme un polytechnicien d'ailleurs, peut passer facilement de la direction de la RATP à celle d'Air France, par exemple. Pourtant, la culture d'entreprise et les compétences requises sont, à n'en pas douter, très différentes pour chacune de ces deux entreprises. Alors la question qu'on peut se poser, c'est n'ont-ils pas tendance à faire fi justement de ces différences en reproduisant dans l'organisation de l'entreprise le mode de gestion bureaucratique et centralisé de l'administration ?
Oui, vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas pousser trop loin tout de même, car les gens ont appris pas mal de choses. Le fait qu'on passe d'une entreprise administrative à une autre et d'une entreprise publique à une entreprise privée, c'est C'est un vrai problème, mais on trouve ça dans tous les pays. Les Américains, chasseurs de tête, font sortir un président qui n'a aucune tradition dans l'entreprise qu'il va diriger. Ça existe un peu partout. C'est un phénomène qui correspond, qui a de mauvais aspects, mais en même temps, c'est aussi un peu de sang neuf. Le problème, c'est le manque d'écoute de la réalité. C'est le fait que les dirigeants français sont formés à tout savoir. Ils savent tout. Et ma réponse simple à ce problème, c'est que quand on sait tout, on n'écoute plus. Et n'écoutant plus, ils ne connaissent pas la réalité telle que la vivent les gens qui sont en dessous d'eux. Alors, il y a des gens qui réussissent à dominer ce travers, mais la majorité des énarques est vraiment très mal formée. Elle ne peut pas comprendre la réalité.
Alors justement, vous me permettez une très bonne transition, puisque les bonnes idées ne peuvent venir que d'en haut. C'est en tout cas ce que pensent nos dirigeants. Quelle place reste-t-il pour l'initiative personnelle au sein de l'entreprise ?
Écoutez, il en reste pas mal, d'une part, parce que, heureusement, la vie est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit, parce que les entreprises sont beaucoup plus complexes et que, alors j'insiste là-dessus, tout de même, il ne faut pas mettre tout dans le même sac, les entreprises ont fait beaucoup de progrès dans les derniers 30 ans ou 40 ans. Et les choses sont vraiment différentes. On vient de loin, mais il y a eu énormément de progrès. Ce qui résiste le plus, c'est le système administratif. Dans le système administratif, les idées viennent du haut, systématiquement, et on ne peut pas concevoir les gens de la base connaissent beaucoup mieux la réalité que les gens du sommet. Bon, ils ne connaissent pas tout, ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas la possibilité de tout mettre ensemble, mais ils connaissent quelque chose de façon forte, parce qu'ils le vivent. Alors, ça, les dirigeants français de l'administration ne le comprennent pas. Du côté du privé, étant donné la concurrence, étant donné le risque dramatique, finalement, pour un dirigeant de faillite, même si on dit qu'il se récupère quand même, c'est une catastrophe, les fonctionnaires sont tranquilles. Hein. Bon, ils changent de poste, ils ont eu tort, ils n'ont pas choisi le bon patron, le bon référent, la politique a changé, ils se plaignent, ils sont bien sûr, mais au fond, ils sont tranquilles. Pour le dirigeant privé, ça devient quand même difficile que, messier. Quand même, il s'enlèvera difficilement. Bon, tout ça, c'est plus important. Alors, la capacité d'écouter et d'écouter en reconstituant ce qu'est la réalité, de se servir de l'écoute pour comprendre un monde. Les dirigeants français, très souvent, se contente d'une explication psychologique ou d'une explication sociologique bête. Il faut dire que ce qui règne en France, c'est la sociologie bête. Tout le monde se plaint, tout est mauvais, tout va de travers. Et alors le dirigeant, il est influencé par ça. Il n'y croit pas, mais il est influencé. L'explication psychologique. Très souvent, quand on faisait des enquêtes dans des entreprises, on faisait des analyses à partir d'entretiens. Ce n'était pas des sondages, c'était plus profond. Et on demandait aux dirigeants de parier sur le résultat. Et ils se trompaient. Presque toujours. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? On leur On faisait un classement d'usines, laquelle devait arriver en tête sur tel point. Eh bien, il arrivait que ce fût la première qui était la dernière et la dernière qui était la première. C'est quand même bizarre. Et ce n'était pas de mauvais dirigeants, hein. Nous n'avons pas choisi des canards moiteux.
Nous y reviendrons, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission Éclairage avec le sociologue Michel Crozier, qui nous parlait à l'instant de la manière de voir des dirigeants d'entreprises français et de cette habitude qu'ont les Français de tout critiquer. Nous allons revenir en fait aux dirigeants d'entreprises. Et si un énarque peut diriger une entreprise puis une autre sans difficulté, il n'en va pas de même pour Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, s'il veut changer d'emploi ou tout simplement évoluer, il doit au préalable avoir occupé un poste identique. Pourquoi tant de rigidité dans le recrutement, alors qu'en Angleterre, par exemple, il suffit d'apporter la preuve de sa motivation pour obtenir le poste désiré, Michel Crozier?
Je crois que... il faut nuancer un peu. En Angleterre, on ne se présente pas pour un poste comme ça. C'est aussi... L'Angleterre était un pays aussi rigide que la France, par certains côtés plus rigide, par d'autres moins. Elle a beaucoup changé maintenant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les postes de départ sont beaucoup plus ouverts en Angleterre qu'en France. Mais vous ne vous présentez pas pour être chef de service ou pour diriger un bureau comme ça, sur votre bonne mine. On regarde ce que vous êtes capable de faire. Alors, les progrès qui se sont faits partout dans le monde, c'est quand même des moyens de déceler les qualités nécessaires pour avoir une responsabilité, pour prendre des initiatives. C'est vrai. Et il est vrai aussi que dans l'Angleterre actuelle, qui est en relative effervescence, il est plus facile de faire ses preuves qu'en France. Cela dit, en France aussi, il y a pas mal d'endroits où on peut faire ses preuves.
En France, la loi impose de publier une annonce dans la presse lorsqu'un poste se libère, dans le seul but de le rendre accessible au plus grand nombre. Et pourtant, je trouve que la réalité est tout autre. Car très souvent, le poste est déjà pourvu, en particulier via les amis des amis. Et il me semble qu'il y a en France un népotisme non avoué. Et je me demande également dans quelle mesure il ne bloque-t-il pas la mobilité sociale dans son ensemble.
Oui, je crois que nous sommes encore relativement bloqués. Cela dit, vous avez... une contrepartie de la religion du concours, des examens, des références. Alors, tout ce qui est fait l'objet d'un concours est retiré de cette ouverture. Alors, quand vous n'avez pas passé de concours, quand vous n'avez pas de titre, vous êtes relativement désarmé. Donc, vous avez... les deux aspects de l'affaire. Alors, les Français sont malheureusement tout à fait passionnés d'égalité devant les postes. Alors, ce sont les postes administratifs, mais ce sont aussi des postes privés. Et donc, de ce point de vue, on met au concours et on n'a pas l'ouverture nécessaire pour prendre des talents nouveaux. Je dis assez souvent, c'est le cas. Mais Il faut savoir se diriger à travers la jungle des concours et aussi des recommandations. Vous comprenez, tout le monde recommande tout le monde. On n'y fait pas toujours attention. Hein. Et je me souviens, ça c'est un peu bête, mais c'était au temps où il n'y avait pas le téléphone en France, parce que c'est pas vieux. J'étais un adulte, il n'y avait pas le téléphone. Pour avoir le téléphone, il fallait attendre. Et donc, on posait sa candidature pour avoir le téléphone. Et puis, un jour, j'ai eu le téléphone. Et savez-vous combien j'ai reçu de lettres de personnes qui me disaient « je suis très heureux de vous apprendre que grâce à moi, vous avez pu avoir un téléphone ». Six personnes prétendaient m'avoir être intervenu auprès de l'administration pour que j'aie le téléphone. Je ne sais pas laquelle avait réussi, mais enfin, vous voyez, tout ça, un peu plus compliqué qu'on ne le croit généralement. On ne peut pas s'empêcher de faire appel aux recommandations. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai écrit des tas de lettres de recommandation. Et comme tout le monde savait que ces lettres de recommandation étaient gentilles, n'est-ce pas ? Alors, le problème était de mettre dans sa recommandation un tout petit quelque chose qui voulait dire que celui-là était plus et que la lettre de recommandation était vraiment une lettre de recommandation. Et au bout d'un certain temps, un bon professeur, un bon communicateur sait ce qu'il faut faire pour que sa recommandation soit bonne. Maintenant, le candidat, il a vu la copie de votre lettre de recommandation. Il vous en voudra pas. Il sait que vous avez fait ce qu'il faut faire, mais ça n'aura pas été suffisant.
Oui, mais quand on n'a pas de recommandation ou qu'on n'est pas passé par le circuit des hautes études, enfin des grandes écoles, comment peut-on accéder à des postes lorsqu'on a pourtant les compétences requises ?
On a les compétences. Le problème, c'est de pouvoir les exercer et que l'on puisse juger sereinement des résultats qu'on a accomplis. C'est ça qui fait problème. Et réussir à faire sa trace, à monter dans la hiérarchie, ça existe beaucoup. C'est pas si facile d'analyser ce qui se passe réellement. Mais beaucoup de gens sont partis de rien et ont réussi à s'affirmer. Le problème français, c'est que on a systématiquement raréfier l'offre au sommet et l'offre à chaque point névralgique, n'est-ce pas ? Et on s'est débarrassé du choix en s'appuyant sur l'examen, les titres et sur le concours, si bien qu'il n'est pas facile de faire ses preuves tant qu'on n'a pas passé les prestigieux concours. Alors, ce que j'avais réclamé il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a 40 ans quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est qu'on ouvre les concours, qu'on accepte plus de gens, que ce ne soit plus si extraordinaire de réussir au concours de l'école polytechnique. ELENA, c'est le concours des concours. C'est tout à fait absurde que tout l'avenir de quelqu'un se joue sur un quart de point gagné au concours. On ne sait pas très bien ce que ça représente. Et pourtant, ça va déterminer toute sa vie. On ne sait pas. Bon, on a un peu, un peu augmenté. On a augmenté le nombre à l'école polytechnique, mais à l'ENA, les gens sont arc-boutés sur le maintien du petit nombre de reçus. Parce que ça correspond au grand poste de l'administration, et l'idéal, c'est qu'on n'ait pas de choix. Les Français ont peur, une peur panique du choix, parce qu'on est responsable. Alors, on ne veut pas être responsable, et c'est le concours. Alors, du moment qu'il est ancien énarque, c'est une garantie. Donc, c'est ça qui fait le problème. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir l'idée que tout le monde peut prendre tous les postes, parce que ça serait la foire d'empoigne, n'est-ce pas ?
Alors, revenons un peu aux ressources humaines, qui comptent d'ailleurs parmi les services les plus importants d'une entreprise aujourd'hui.
Oui.
Et là encore, les méthodes de recrutement ont de quoi étonner, puisque le recours de plus en plus systématique à la graphologie, par exemple, est un signe, ou en tout cas n'est-il pas un signe qu'en France, nous sommes peut-être un peu moins capables d'évaluer justement un bon candidat ?
Oui, écoutez, je sais pas. Pas très bien si la graphologie est de plus en plus en vogue. Elle était en vogue. C'est une science vraiment très vague qui donne une vague idée du caractère, mais avec des erreurs fortes. Alors, vous voyez quelqu'un qui écrit Moulet très... Bon, il a l'air tout à fait bureaucratique, mais on ne sait pas très bien. On a perfectionné les méthodes de recrutement, mais nulle part au monde on a des méthodes tout à fait fiables. Non, ce qu'il faudrait faire, et ce qui peut se faire un peu, c'est une formation action dans laquelle les gens ont des responsabilités pour faire quelque chose et pour qu'on puisse les juger puisqu'ils auront fait quelque chose. Nous avons nous-mêmes organisé une formation de sociologues qui a beaucoup enthousiasmé les jeunes parce qu'ils adorent ça, dans laquelle la part du faire et de la réflexion sur le faire, parce qu'on leur fait faire c'est pas un exercice, c'est une vraie recherche, et ensuite on discute de la recherche, on discute de leur raisonnement, et on a découvert que c'est comme ça qu'on change le plus facilement, le plus profondément, le raisonnement. Ils écoutent beaucoup mieux une fois qu'ils sont passés par là, et ils analysent ce qu'ils ont écouté, ce qui est une capacité, c'est pas tout, mais c'est une capacité très importante pour l'avenir.
Suite de l'émission Éclairage consacrée au blocage de la société française avec Michel Crozier, revenons donc encore aux ressources humaines. Pareil, j'ai l'impression, après avoir lu beaucoup de choses, que la tendance actuelle des entreprises françaises s'attache plutôt à baisser les coûts salariaux pour augmenter la productivité individuelle. Et ça, en période de crise, on le voit encore plus. Du coup, chacun est occupé à atteindre ses propres objectifs sans établir, par exemple, de synergie entre services au sein d'une même entreprise. C'est ce que vous notiez déjà en 1993, je crois, chez Air France.
Oui.
Et à quoi est due, justement, cette absence de coopération et d'échange ?
Eh bien, ça s'apprend, d'une part... On n'apprend pas. Hein. Les grandes écoles sont des grandes écoles de compétition. Les Français sont très compétitifs, de toute façon. Hein. À l'ENA, je ne sais pas si s'il y a eu des histoires de choses trappes, etc. Il pourrait y avoir un meurtre, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à gagner quelques places. C'est tellement important. C'est toute la vie qui en dépend. Alors, les gens sont très compétitifs. Bien, on ne leur apprend pas dans les postes dans lesquels ils sont installés à leur entrée. Le problème tient pour une large part à l'organisation interne qui est une organisation centralisée où chacun a un poste, le poste est délimité et c'est une cascade de responsabilités et les responsabilités sont très défini. Alors, on cherche à dépasser ça et on a réussi à le faire dans beaucoup de cas. Ça se passe un peu partout. Là encore, les Français ne sont pas les seuls à travailler comme ça. Nous avons été un peu en retard. Nous avons en même temps fait des progrès. Dans le cas d'Air France, c'était caricatural, parce que Air France reste, mais beaucoup moins maintenant, une compagnie administrative, une compagnie d'État. C'était la compagnie d'État. Et dans cette compagnie d'État, il y avait une douzaine d'échelons hiérarchiques. Et chacun avait son secteur, sous-secteur, cela descendait sous-sous-sous-secteur. Bien. Et ce que nous avions vu, et qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'était quand on a voulu augmenter la productivité. On n'a pas regardé la réalité à fond, on n'a pas écouté les gens. Hein, c'était très important. Nous avons écouté, on a fait une enquête. Après la grande grève, après la quasi-faillite de la compagnie, on a écouté tout le monde et on a vu qu'en cherchant à augmenter la productivité, on voulait l'augmenter dans chaque poste parce qu'on ne voyait que les postes. Et à ce moment-là, le paradoxe, c'était qu'on oubliait le fait que les gens s'étaient arrangés entre eux et coopéraient beaucoup plus qu'on ne croyait. Donc, c'est-à-dire que, pour répondre à votre première question, les gens se débrouillent pour coopérer quand c'est nécessaire. La débrouillardise est d'ailleurs une des qualités traditionnelles que les Français se reconnaissent. Pendant la guerre de 14, n'est-ce pas ? Tout le monde a dit les Français sont débrouillards, les Allemands sont bureaucratiques. C'est pour ça qu'on a gagné, parce qu'on est débrouillards. Alors, à Air France, les gens étaient débrouillards, mais et donc s'arrangeaient entre eux. Ils ne faisaient pas exactement ce qu'on leur disait de faire. Et quand, dans une ligne de production, il y avait un à-coup auquel on ne pouvait pas répondre, on demandait aux copains de faire quelque chose. Au copain de la ligne d'à côté. Le copain de la ligne d'à côté, sachant qu'on lui rendrait l'appareil, faisait quelque chose. On s'arrangeait tant bien que mal. Alors, quand on s'est mis à faire de la productivité à haute dose, de plus en plus, parce que Air France allait mal, donc on pressurait et chacun devait faire une productivité individuelle. Et la productivité individuelle était très importante, mais le problème n'est pas la productivité individuelle, c'est la productivité collective de chaque ensemble et de l'ensemble des ensembles. Et c'est ça qui manque en France, hein. C'est là-dessus qu'on n'est pas bon. Alors, cela dit, nous avons eu, nous, sociologues, soi-disant rêveurs, on leur a fait prendre conscience de la réalité et ça a marché. Si Air France est maintenant la première compagnie d'Europe et une des premières du monde, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils ont changé leur système. On a diminué le nombre d'échelons hiérarchiques, d'une part, et d'autre part, on a, tant bien que mal, ouvert un peu les possibilités de coopération. Alors, ce sont des choses comme ça qui feraient toute la différence. C'est dans la dernière partie de ma vie ce que j'ai fait en essayant de faire prendre conscience aux dirigeants qu'il est possible, en écoutant, en analysant et en remettant sur... en remettant en question l'organisation interne à partir de la connaissance qu'on a de la réalité, de ce que font les gens et de ce qu'ils pensent en le faisant, eh bien, on peut avoir une productivité finalement meilleure. Mais nous avons quelque chose un peu comme ça à travers l'influence de l'État et de tout le système à la française. Nous avons un paradoxe tout à fait extraordinaire qui n'est pas mis en évidence suffisamment, qui est que la productivité individuelle des Français est parmi les meilleures du monde. Individuellement, le Français travaille beaucoup. Ce qui n'est pas bon, c'est la productivité collective. Et c'est ça qui est en jeu, et les sociologues ont beaucoup à dire, mais on ne les écoute pas. Enfin, ceux qui sont capables de voir des choses comme ça, parce que la majorité des sociologues rêvent autrement.
Pour informer un peu l'auditeur, vous êtes intervenu en 93 hein, dans le cadre d'un audit pour Air France qui a été demandé par Christian Blanc à l'époque, suite à des grèves assez importantes. Et vous aviez également, en 87, vous étiez intervenu dans le cadre de la SNCF. Vous aviez fait également un audit sur
la SNCF et sur la traction. Voilà. Le service traction qui est une petite partie, une partie seulement de la SNCF, mais cruciale parce que c'est les conducteurs de train.
Alors, dans les chapitres 6 et 7 de La crise de l'intelligence, qui est un de vos ouvrages, vous relatez votre expérience et vous écrivez que les changements habituels préconisés par les directions tendent à renforcer les dysfonctionnements du système.
Oui.
Qu'entendez-vous par là ?
Jusqu'à un certain point, c'est ce que je vous ai dit à propos d'Air France, pour vous dire que il y avait un dirigeant de qualité d'ailleurs, polytechnicien Hénard, qui était le frère de Jacques Attali, qui est nommé président d'Air France et plein de bonnes intentions. Il voit que Air France perd de l'argent et perd des parts de marché, et il fait venir le meilleur consultant en contrôle budgétaire. Donc, on fait ce que je vous ai dit d'en haut, sans comprendre la réalité, un audit. Et on met plus de pression sur les individus. Et les individus vont être très malheureux, vont résister au système et en même temps vont être finalement individuellement plus productifs et collectivement beaucoup moins. C'est quelque chose comme ça qu'on trouve. Et pour la SNCF, bon, on était incapable de faire une réforme, mais quand ils ont vu les résultats de l'enquête, ils ont été très impressionnés. On a réussi, d'accord avec les cheminots consultés, on a rendu les résultats aux cheminots, on a fait toute une expérience de coopération, à la suite de quoi on a supprimé un échelon hiérarchique qui était un échelon clé, et ça a permis un rapport bien meilleur entre la direction et les conducteurs de train, enfin les directions moyennes, régionales et les conducteurs de train.
Alors, quand vous avez rendu les conclusions de l'audit sur la SNCF, Vous avez été, sauf erreur de ma part, confronté au peu d'enthousiasme des syndicats. Comment expliquez-vous cette attitude ?
Ben, c'est assez normal parce que les syndicats, ils ont pris un rôle qui est un rôle de revendication. Et donc, ils prétendent exprimer la voix de leurs mandants, de leurs membres. Et quand quelqu'un d'autre vient dire « Oui, mais les gens, ils pensent pas tout à fait ça », ça les met en colère. Nous avons fait très attention pour les mettre dans le coup. Et si vous voulez, toute la raison de notre succès, c'est le fait que on a rendu les résultats aux conducteurs qui avaient été interrogés et qui nous ont dit, qui ont dit, mais c'est exactement ce qu'on a dit, c'est très bien ce que vous avez fait, et voilà, c'est bien notre voie. Ils l'ont dit sans penser aux syndicats. Mais quand on a montré ça aux syndicats, les syndicats ont dit « Mais c'est ce qu'on avait toujours dit, n'est-ce pas ?» Bon, ils se sont ralliés à ce qu'avaient dit les conducteurs parce que le mandant, c'est tout de même sacré. Alors, on le dit. Et Air France, c'est tout à fait extraordinaire. Air France, tous les syndicats ont dit « Ah, l'enquête, c'est formidable !» Mais ils ne voulaient pas avoir les résultats de l'enquête. Enfin, ils ne voulaient pas que les résultats de l'enquête se traduisent en décision. Vous voyez la différence ?
C'est ça qui est paradoxal, justement.
Ben, tout est paradoxal. Je veux dire, le monde n'est pas simple, madame. Le monde n'est pas simple. Alors, il faut naviguer entre toutes sortes d'écueils, et on en tient compte. Ce qui est très important, c'est le respect qu'on a pour les personnes. Alors, nous avons respecté les conducteurs, nous avons respecté les employés d'Air France, et nous avons respecté leurs syndicats aussi. On arrive à avancer. C'est plus difficile probablement qu'ailleurs, mais on va peut-être plus profond. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, ce qui me révolte beaucoup, c'est les gens qui disent « mais il n'y a rien à faire, les Français sont stupides » ou « les dirigeants sont stupides ». Les dirigeants, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont mal formés, ils ne savent pas, etc. Ils se croient un peu plus d'un autre livre, c'était « La tentation du discours ». Tout le monde discours. Alors, tout le monde discours. Les hommes politiques discours, c'est leur métier. Mais les fonctionnaires discours et les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font quand ils se rencontrent ? Des discours. Et ils croient que parce qu'ils ont fait un discours, ils ont fait quelque chose.
D'accord. Donc
et ils n'ont rien fait. Et on a des résultats invraisemblables, n'est-ce pas ? Le dirigeant d'entreprise dit voilà ce qu'il faut penser et que tout le monde me suive. Et les gens disent cause toujours. Bon, ça marche très peu.
C'est sur ces mots que nous allons marquer encore une très courte pause.
Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les. Jessica Baudet.
Suite de notre émission, le dernier quart d'heure de notre émission Éclairage consacrée au blocage de la société française. Cette année, le gouvernement Raffarin renforce la décentralisation, comme vous le savez, dans ce qu'il nomme la République de proximité. De ce fait, de nouvelles compétences vont être transférées aux collectivités territoriales, dont le versement d'aides individuelles aux entreprises. Est-ce que vous pensez que cela va stimuler le dynamisme économique dans notre pays, et notamment ce dont vous parlez très souvent, l'innovation.
Ben, écoutez, je ne suis pas convaincu du tout, parce que c'est une procédure que l'on a employée depuis longtemps, qui n'a jamais donné vraiment de résultat, parce que les gens vont se battre pour avoir une aide. On ne sait pas comment, sur quels critères on va la donner. L'innovation, on ne sait pas ce que c'est. Alors, il y a eu parfois des réussites, et il y en aura encore. Mais on avait fait une petite étude sur la façon dont les aides étaient distribuées. Alors, on crée un nouveau comité, parce que c'est un comité qui va distribuer des aides. En plus, c'est la France. Alors, donner à une personne le droit de le faire tout seul, ça fait peur. Alors, on fait tout de suite un comité. Et alors, au début, le comité est assez hardi et prend quelques bonnes décisions, parce qu'il a très peu de demandes. Et puis, au bout d'un certain temps, tout le monde sait, un grand nombre de gens savent que quelque part, il y a une aide. Alors, ils se précipitent. À ce moment-là, on est obligé de faire des règles. Et on retrouve le même système. Et à la fin, très vite, nous avions fait l'analyse sur un comité. Au bout de 2 ans, c'est fini. 2 ans. Hein? Et dans 2 ans, il y a 6 mois de bons et 18 mois de plus en plus mauvais. Hein? Dans lesquels on donne de l'aide à des gens qui n'en ont pas besoin et ou à des gens qui sont de mauvais paris, parce que c'est pas simple.
Pourtant, vous pensez, à l'exemple justement de la société américaine, qu'un maillage de PME peut être une solution au dynamisme économique.
Ah oui, ça c'est tout à fait essentiel. Mais si vous voulez, ce qui est tout à fait les erreurs du passé, on est obligé de le dire, et en même temps c'est plus facile. Les erreurs du passé, c'est que la France a cru pendant assez longtemps, pendant les Trente Glorieuses, que plus c'était grand, meilleur c'était. Et à ce moment-là, on a négligé les PME. Et de toute façon, tout au départ, les socialistes, bon, ils ont changé, mais les socialistes voulaient nationaliser. Hein, ils y croyaient. Et puis tout le monde voyait très grand. Et l'État cherchait à avoir des champions de grande taille. Bien. Et maintenant, on a fini par découvrir, mais les Américains aussi ont découvert que la force de l'Amérique, c'était une effervescence considérable de quantité de PME, de petites entreprises et d'entreprises individuelles même. La grande affaire, c'est le type qui a une idée, qui a une compétence, et avec l'informatique, les cartes de crédit, tout ça, il jongle avec ça, et pendant un certain temps, il réussit à tenir. Les 9 dixièmes font faillite, mais il y en a un qui réussit et qui devient quelqu'un et qui fait une entreprise. C'est assez impressionnant. L'esprit d'entreprise, il souffle à la base. Et pendant longtemps en France, encore maintenant, on croit que l'esprit d'entreprise, c'est Bernard Tapie, c'est un grand, un type qui fait des choses extravagantes. Messier, on le considérait comme un chef d'entreprise. Bon, c'était en fait un prestidigitateur.
Les actionnaires s'en souviennent, je pense.
Toutes sortes de choses qui étaient intelligentes, certes, mais qui n'étaient pas une entreprise. Il n'a pas réussi à créer une entreprise, il était incapable, il ne savait pas de quoi il s'agissait.
Alors que faudrait-il faire en France justement pour stimuler la création d'entreprises? Parce qu'on a l'impression quand même que tout est fait, malgré ces aides ponctuelles, pour que la création d'entreprises soit entravée.
Eh bien, il faut d'abord réformer, il ne faut pas d'abord, il faut réformer l'État. Et l'État est un monstre pesant et qui étouffe un peu tout. Il faut transformer la formation moyenne, je veux dire par évidemment, on peut toujours dire ça commence à la maternelle, bien sûr, tout ça est important, le collège, etc. Mais les formations universitaires, elles ont un peu changé. Et dans certains cas, beaucoup changé. Les écoles de commerce ont changé en pratique beaucoup dans la mesure où la mode est venue que tout le monde aille 6 mois à l'étranger.
Ce qui est bien, effectivement.
Mais c'est extraordinaire. Mmh. Les gens qu'on voit revenir, ils sont beaucoup plus malins. Ils comprennent des tas de choses que les gens qui sont restés chez eux ne comprennent pas. C'est bizarre, on ne sait pas très bien comment, parce que ce n'est pas que ça marche tellement mieux en Allemagne ou en Hollande, mais ils ont pris un peu de recul par rapport à la formation traditionnelle. Et c'est le problème. Il faut que le mode de raisonnement change. Alors, ça commence à se faire. Et alors, créer une entreprise, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On en a fait un peu, mais pas assez, curieusement. Aux États-Unis, on crée son entreprise du jour au lendemain. C'est effectivement le cas. Il y a une administration qui s'appelle Small Business Administration, qui est très efficace en ne subventionnant pas. Ils ne donnent pas d'aide, pas d'aide financière, mais ils aident tout le monde par toutes sortes de choses. Dès que vous avez un problème, vous pouvez les appeler. Ils ont un système qui marche.
Nous allons finir cette émission avec une question qui concerne l'Europe et la place de la France dans l'Europe. Est-ce que vous pensez que la confrontation des cultures d'entreprise, mais surtout de la culture administrative, entre les pays membres peut permettre à la France d'évoluer et de faire évoluer son organisation centralisée et très administrative?
Écoutez, je le crois. Je le crois même fortement. Mais en même temps, j'ai été déçu tant de fois, d'une part. D'autre part, je connais suffisamment les résistances, les lenteurs, etc., je ne suis pas très optimiste pour l'immédiat. Il faut beaucoup de temps. En revanche, cette confrontation avec les autres pays a tout de même déjà eu des résultats. Seulement l'ennui, il y a un très très gros ennui qui apparaît maintenant. Et qui est difficile de surmonter. L'ennui est le suivant. Nous avions une culture, et nous avons toujours une culture du sommet, d'une culture planificatrice, orientée vers la bureaucratie, avec des qualités, parce qu'on en a dit beaucoup de mal, j'en ai dit beaucoup de mal, mais il y a tout de même des qualités d'exactitude, de responsabilité, de travail, de bon travail. Le grand commis de l'État, c'était aussi quelque chose de réel. Ceci a eu beaucoup d'importance au début de la Commission européenne, de la Communauté européenne, mais la Commission a joué un rôle tout à fait décisif. Et à la Commission, les Français dominaient parce qu'ils avaient un bon raisonnement. Ce bon raisonnement était fondé sur ce modèle. Ce modèle, il l'ouvrait, puisqu'ils avaient affaire aux Allemands, aux Hollandais, aux Danois, et donc ils faisaient un effort, ils accommodaient leur modèle Et comme c'était des gens aventureux, ceux qui sont allés là-bas, parce que c'était pas tout le monde qui allait là-bas, c'était ceux qui étaient le plus aventureux. Bon, alors ces gens-là avaient beaucoup d'influence, et la communauté européenne a été dominée par les Français jusqu'à Jacques Delors. Jacques Delors a été le dernier Français dominateur. Il avait un côté peut-être trop dominateur, mais enfin, ça marchait très bien, tout le monde l'adorait, n'est-ce pas? Et c'était le modèle français qu'on adorait. Entre-temps, les Anglais sont venus. Et les Anglais étaient à part, parce qu'ils avaient un autre modèle. Et ils faisaient le dos rond, puis petit à petit, ils prenaient plus d'importance. Et ils ont influencé la commission dès le temps de l'or. Mais ensuite, quand les choses se sont accélérées, à ce moment-là, les Français se sont trouvés de plus en plus en perte de vitesse face aux Anglais et au modèle anglo-saxon. Et le modèle anglo-saxon est de loin le plus efficace quand le nombre de pays augmente. Si bizarre que ça puisse paraître, le problème est qui décide? Alors, qui décide quoi? En vertu de quels critères? Alors, les critères de planification à la française allaient encore quand on était une Europe à 6. Et à partir du moment où on est plus nombreux, en vertu de quoi on doit décider telle chose? Eh bien, les Anglais apportent un modèle simple et bête qui est coût et avantage. Ils sont spécialistes de politique publique, contrairement à ce qui à l'image qu'on en a. Les politiques publiques sont devenues un problème assez fondamental dans le monde entier, sauf en France. Et en France, il y a un certain nombre de gens, mais ils sont très minoritaires, qui enseignent les politiques publiques, qui travaillent là-dessus. Mais on est à la remorque des anglo-saxons parce que c'est un problème à la fois simple et difficile et qu'il faut un autre mode de raisonnement. Et l'autre mode de raisonnement, on y est hostile en France presque par principe. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. Et pour le moment, en Europe, on est à la traîne. Alors l'ennui, je vais revenir à votre question, l'ennui avec l'Europe, c'est que les Français sont résistants. Ils sont toujours à la traîne. Ils réclament toujours un peu plus de temps, monsieur le bourreau, pour ne pas appliquer une décision à laquelle pourtant ils ont participé. Mais tout de suite, on a des problèmes.
Très bien, c'est sur ces quelques mots que s'achève notre émission Éclairage consacrée aujourd'hui au blocage de la société française. Blocage dont vous avez, je l'espère, mieux compris la nature et les enjeux. Merci au sociologue Michel Crozier de nous avoir accompagnés dans ce décryptage qui reste d'actualité. Et je rappelle à nos auditeurs la parution de « À contre-courant », second volet de vos mémoires, publié chez Fayard, un livre passionnant dans lequel vous racontez notamment comment vous avez mené vos audits pour la SNCF et Air France, et vous évoquez également vos nombreux voyages à l'étranger, en Extrême-Orient et également en Europe de l'Est.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.